Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Merci d'être là et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette soirée du mercredi 15 septembre avec le journal de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir, Sébastien, avec les premiers mots des accusés au procès des attentats du 13 novembre.
Les 14 accusés ont tour à tour pris la parole, tous pour s'excuser ou pour nier leur participation, tous sauf un, Salah Abdeslam, qui lui revendique intégralement les faits. Une réponse, dit-il, au bombardement français sur l'État islamique en Syrie. Nous serons en direct du palais de justice de Paris dans un instant. Peine minimale, amende retenue sur salaire. C'est la contre-attaque de Xavier Bertrand contre Emmanuel Macron sur le terrain de la sécurité. Le patron des Hauts-de-France qui fustige les postures martiales, dit-il, du chef de l'État, on l'entendra. À suivre aussi le Gard, les yeux tournés vers le ciel, mais le risque d'orage violent s'éloigne ce soir dans la région. La ville de Bordeaux qui passe à son tour aux 30 km/h. Un gros lot à gagner au loto mexicain, la planque du baron de la drogue El Chapo. Et puis la disparition de Marthe Mercadier à 92 ans, vedette du théâtre de boulevard.
À 18h15, un jour dans le monde au Canada, ce soir qui vote lundi prochain, le 20, des élections anticipées voulues par Justin Trudeau, dont on verra qu'il n'est plus tellement aux yeux des Canadiens ce jeune homme photogénique et très fringant qui a été celui de sa première élection en 2015. Le temps a beaucoup passé depuis. À 19h20, c'est le téléphone sonne, l'éco-anxiété. On a tous appris à connaître ce terme-là. On dit aussi climato-déprimé. C'est lorsque la dégradation inéluctable de la planète touche tellement certaines personnes qu'ils en développent une forme de dépression ou de stress. Une étude du Lancet publiée hier a fait parler d'elle. C'est la plus vaste enquête jamais réalisée. 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans. Et on en parle ensemble au 01 45 24 7000. La cour d'assises spéciale a donc entendu pour la première fois la totalité des 14 accusés présents dans le box.
Tous poursuivis pour les attentats du 13 novembre 2015 à des degrés divers. Certains soupçonnés d'avoir conduit une voiture, d'autres d'avoir préparé activement les attaques. Et enfin, un seul accusé d'être parmi les membres du commando meurtrier. Depuis une semaine, depuis le début des audiences, ses premiers mots, ses premiers commentaires, les magistrats, les avocats et bien sûr les victimes les attendaient. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Tous les accusés ont cherché à minimiser, Charlotte, leur participation, sauf le principal concerné, Salah Abdeslam.
Oui, ce sont d'abord les trois accusés qui comparaissent libres, qui sont invités à se lever. Satisfaits, disent-ils, de pouvoir enfin s'exprimer et tenter de mettre à distance le plus possible les attaques que l'on juge ici. J'étais vraiment choquée par les attentats qui ont eu lieu à Paris et à Bruxelles, déclare Abdelachoua. J'ai trois merveilleux enfants qui attendent leur père à la maison et j'espère que justice sera faite car je suis totalement innocent. Farid Karkash évoque à son tour sa femme enceinte de 8 mois qui allait descendre dans le métro le jour des attentats de Bruxelles. Lui qui a vous être coupable d'avoir fait des faux papiers, mais je n'aurais jamais cru que ça allait mener à un massacre. Même ignorance revendiquée du projet terroriste pour ceux qui ont aidé Salah Abdeslam dans sa fuite. Et puis, Salah Abdeslam, justement, le dernier à se lever. Je serai peut-être un peu long, prévient-il, et très calmement, d'un ton posé qui détonne avec ses précédentes sorties à l'audience, il déclare « On a combattu la France, on a visé des civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel à leur égard, on a visé la France et rien d'autre. » La suite est une critique de la politique étrangère de François Hollande avant enfin un mot pour les victimes. Je sais que mes propos peuvent choquer, mais je veux être sincère et ne pas leur mentir.
Charlotte Piret en direct de l'île de la Cité à Paris avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne, le procès des attentats du 13 novembre. On y revient dans le journal de 19h à suivre également sur franceinter.fr et sur le compte Twitter de nos journalistes Charlotte Piret et Sophie Parmentier. Les ennuis pour Lagardère continuent. Le groupe d'Arnaud Lagardère a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre du différend avec l'un de ses principaux actionnaires, Amber Capital. Les magistrats enquêtent notamment sur des soupçons d'achat de vote lors d'une assemblée général. Et puis c'est rarissime en matière judiciaire, un procès annulé à cause de l'âge des prévenus, trop vieux pour être jugé. Le procès dit de la chaufferie de la défense sur l'attribution frauduleuse de ce juteux marché dans les années 2000 n'aura pas lieu. L'instruction aura duré 20 ans, une durée non raisonnable a estimé la cour d'appel de Versailles. Les prévenus ont aujourd'hui 82 et 98 ans.
La réplique de Xavier Bertrand au président.
C'est un vrai tir de barrage en réponse aux annonces hier d'Emmanuel Macron sur la sécurité et sur le métier métier de policier, le président de la région des Hauts-de-France et candidat déclaré à la présidentielle n'y est pas allé de main morte et contre le chef de l'État et sur ses propositions en matière sécuritaire. Il l'a fait depuis son fief, Saint-Quentin dans l'Aisne, en espérant s'affirmer comme candidat incontournable de la droite. Anne Souhaitement a suivi pour nous cette allocution solennelle.
La mise en scène se veut présidentielle. Après les applaudissements, silence de cathédrale quand Xavier Bertrand prend la parole. Un slogan, la sécurité à nouveau. Au pupitre, Xavier Bertrand attaque, pilonne le bilan de 4 ans de macronisme. La rallonge de 500 millions d'euros annoncée hier par le président, une mise en scène électorale. Citant Nicolas Sarkozy, le candidat promet s'il est élu la fin de l'impunité et liste ses mesures, de la majorité pénale à 15 ans, à la création de 20 000 places de prison, en passant par l'expulsion des étrangers en fin de peine.
La question qui se pose, vous savez, aujourd'hui est très claire. 5 ans après, est-ce qu'en France, on est plus ou moins en sécurité qu'il y a 5 ans ? La réponse est claire, c'est non. Alors il n'y a aucune fatalité à cela, mais pour changer, il faudra changer de président de la République.
Une manière de mettre en scène un supposé duel avec Emmanuel Macron et de s'extraire de l'interminable processus de désignation du candidat de la droite.
Si je ne participe pas à la primaire, ce n'est pas pour participer à tous ces débats, parce que pendant qu'on est là-dessus, on n'est pas dans le plus important, parler aux Français et les convaincre.
Un Xavier Bertrand en campagne, aujourd'hui sur la sécurité, bientôt sur l'emploi, mais encore loin à en croire les sondages d'un ticket pour le second tour et donc d'un duel avec Emmanuel Macron.
Anne Souhaitement du service politique de France Inter. Une piqûre ou la porte, l'ultimatum du 15 septembre pour les 2 700 000 soignants non vaccinés arrivait à échéance aujourd'hui. Pas de chiffre à cette heure sur le nombre de soignants récalcitrants, mais le gouvernement a garanti d'appliquer la règle de la suspension en cas de non-vaccination avec, je cite, discernement, notamment aux Antilles qui manquent cruellement de bras pour faire face à l'épidémie. Un soulagement également pour les Réunionnais. Le confinement en vigueur dans l'île depuis un mois et demi sera levé ce samedi, et le couvre-feu repoussé à 23h. Partons maintenant pour le sud de la France où l'inquiétude redescend face aux nouveaux risques d'orages violents. Météo France avait prévu de nouvelles chutes de pluie pour ce soir. Vigilance orange dans 8 départements au total. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, mais aussi la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Mais finalement, les pompiers lèvent peu à peu leur dispositif. La situation de crise est passée. Romane Porcon, vous êtes à Bernis, dans le Gard, au centre opérationnel des pompiers.
Oui, et d'ailleurs, ça se voit sur le centre opérationnel, puisqu'il y avait, il y a quelques heures, plus d'une trentaine de véhicules de pompiers. Désormais, il n'y en a plus qu'une dizaine. La situation de crise est passée. Il reste tout de même vigilant, comme l'explique le lieutenant-colonel Frédéric Paul, qui commande les opérations sur cette zone.
Nous sommes en train de dégraisser le dispositif, puisque nous n'avons plus d'action à mener, significative. Il reste un point noir sur la zone commerciale Les Allemands d'Aigues-Vives, parce que l'eau est toujours là, tout simplement, et que la zone continue à être alimentée en eau. Donc ça ne sert à rien de pomper tant qu'elle est alimentée. Sinon, ce soir, nous aurons fini toutes les interventions que nous avions réalisées dans la journée. Par contre, au poste nuit, nous gardons un dispositif préventif, au cas où les pluies annoncées ce soir auraient un effet comme hier ou avant-hier.
Et de nouvelles précipitations sont en effet attendues ici dans le Gard pour cette nuit. Des rafales de vent, beaucoup de pluie et même de la grêle. Le commandant des opérations sur place à Bernis appelle donc les habitants à la plus grande sagesse.
Alors je leur conseille, mais pas qu'à ceux qui ont été touchés, à tous les habitants du Gard, de rester chez eux tout simplement. Et puis si d'aventure l'eau devait monter autour de leur domicile, de se réfugier au premier étage et de se signaler. Il ne faut pas partir, il ne faut pas aller voir ses proches qui sont en sécurité chez eux aussi. Il ne faut pas, voilà, il faut rester chez soi tout simplement.
Les pompiers qui restent donc bien mobilisés ce soir encore dans le Gard, avec des renforts notamment attendus dans les casernes.
Romane Porcon, merci en direct de Bernis dans le Gard. Ajoutons toutefois que 2100 foyers restent privés d'électricité dans le département. Les Bordelais vont devoir lever le pied comme à Paris ou comme à Lyon. La vitesse maximale autorisée pour les voitures va passer à 30 km/h en janvier 2022 et dans 90% des rues de la ville. Écoutez le maire de la ville de Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic.
C'est un outil d'apaisement, c'est un outil aussi de fluidité de la circulation. Parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils roulent à 50 km/h dans Bordeaux. Non, la moyenne de circulation dans Bordeaux, c'est 15 km/h en voiture, 14 km/h à vélo. Donc en limitant la circulation, on limite les à-coups, les accélérations, les freinages, donc on limite la pollution. Notre souci, c'est vraiment de fluidifier. On commence à avoir quelques retours sur d'autres villes qui nous ont précédés. C'est quand même des mesures qui sont bien vécues, d'autant plus que cela aussi, même si certains prétendent le contraire, permet de limiter la pollution de l'air, du trafic automobile. Donc je pense que c'est à beaucoup de bénéfices place pour les usagers.
Pierre Hermic, maire de Bordeaux avec France Bleu Gironde. Lui est à la recherche d'un nouveau souffle politique après la crise du Covid. Boris Johnson remanie son gouvernement. A noter surtout le départ de son chef de la diplomatie, Dominique Raab, très critiqué pour sa gestion de la crise afghane. Il devient ministre de la Justice. En bref, encore à l'étranger, cette polémique qui monte autour de la possible arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner au Mali. Des discussions seraient en cours. Une hypothèse qui préoccupe, on le sait, beaucoup Paris, mais aussi Berlin. Un accord entre Wagner et Bamako remettrait en cause le mandat de l'armée allemande sur place. Déclaration de la ministre de la Défense, outre-Rhin.
Et Sébastien, on en vient à cette histoire incroyable. Ça se passe au Mexique. La loterie nationale met en jeu la planque du narcotrafiquant El Chapo.
Une narco-loterie, en quelque sorte. Les gagnants vont pouvoir devenir propriétaires des biens des barons de la drogue confisqués ces dernières années par l'État. Et donc de la maison de l'un des plus grands trafiquants de l'histoire, Joaquim El Chapo Guzman, condamné à la prison à vie aux États-Unis. Sa maison et sa salle de bain sont devenues célèbres en 2014 lors d'une évasion rocambolesque au Mexique. Emmanuel Stills.
Une façade blanche, anodine, une demeure d'un seul étage dans un quartier tranquille de Culiacán, la capitale de l'État du Sinaloa. Ce serait une maison ordinaire s'il n'y avait ce tunnel partant de la salle de bain. Le tunnel emprunté par El Chapo pour s'enfuir à moitié nu alors que les forces de sécurité enfonçaient la porte d'entrée. Pour 250 pesos, 10 euros, le prix du billet de loterie, les Mexicains peuvent remporter cette maison ou l'une des 22 propriétés mises en jeu. Des narco-palaces de Mexico aux appartements d'Acapulco, des voitures de luxe aux jets privés, les biens confisqués par la justice sont habituellement mis en vente aux enchères. Mais cette fois-ci, le gouvernement déroge à la règle. La fête nationale vaut bien quelques gros lots. Pour la spécialiste du narcotrafic, Guadalupe Correa Cabrera, cette loterie pose néanmoins un problème éthique.
Ces maisons ont été acquises grâce aux profits générés par le trafic de drogue, qui a entraîné beaucoup de morts. Les offrir comme prix lors d'une loterie ne me semble pas approprié, surtout que l'on ignore aux mains de qui elles pourraient tomber.
Certains Mexicains estiment que le fait de présenter les biens saisis aux narcos comme des gros lots ne peut que contribuer à revivifier leur légende. Mexico, Emmanuel Stales, France Inter.
C'était la reine du théâtre de boulevard.
Marthe Mercadier nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Une carrière de vedette populaire entre cinéma, théâtre, télévision et danse.
D'abord souffleuse dans les coulisses d'un théâtre, Marthe Mercadier fait ses débuts sur scène après une formation de théâtre et de danse dans les années 40. Mais c'est la télévision qui l'a fait connaître du grand public, avec d'abord la série Les Saintes Chéries en 1965, puis l'émission théâtrale Au Théâtre ce soir, dont elle est une figure récurrente. Au total, elle est vedette d'une quarantaine de pièces de théâtre et presque autant de films. Pourtant, sur le grand écran, elle n'a jamais été tête d'affiche. En 2011, sur France 2, elle expliquait pourquoi elle avait posé très tôt ses conditions pour le cinéma.
Il y a un impresario qui m'a dit, le cinéma vous demande, vous serez avec des vêtements, vous serez un peu déshabillé. J'ai dit non. Alors j'ai tout de suite demandé à l'avocat de mes parents de faire trois clauses. Je n'embrasserai pas un monsieur sur la bouche, je n'enlèverai pas mon soutien-gorge, mon machin, et je ne serai jamais nu dans un lit avec un monsieur que je ne connais pas.
Engagée pour les droits des femmes, mais aussi dans des causes humanitaires, en particulier en Afrique, où elle a fait plusieurs voyages caritatifs, elle a joué jusqu'au début des années 2010, un dernier spectacle en 2012 avant de disparaître des théâtres. La maladie d'Alzheimer ne lui permettait plus de monter sur scène.
Julien Baldacchino, merci. La disparition de Marthe Mercadier, retrouvée également sur franceinter.fr. Et puis un dernier mot de sport avec l'affiche du soir en football. Messi, Neymar, Mbappé, la MNM comme on les surnomme, contre les Belges de Bruges. Premier match du PSG en Ligue des Champions. C'est en Belgique et ça commence à 21h.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Vous revenez dans un instant sous les radars dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un kit de télétravail japonais qui tient dans une poche ou pas loin. Ce soir, nous allons au Canada qui vote lundi prochain avec un Justin Trudeau un peu moins fringant qu'il l'a été. Je vous promets aussi un reportage passionnant en Suède autour de la question des jeunes trans. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle d'éco-anxiété ce soir après une étude publiée dans le Lancet, parue hier, réalisée sur 10 000 jeunes dans le monde âgés de 16 à 25 ans. 5 ans, des jeunes que la dégradation de la planète, notre incapacité à agir, rend réellement dépressif. 3 jeunes sur 4 jugent le futur effrayant. Des réponses qui varient évidemment si vous êtes français ou si vous êtes aux Philippines, c'est très clair, mais qui parlent vraiment de souffrances psychologiques liées au dérèglement climatique. On en parle ce soir, on attend vos appels au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, assez déprimant lui aussi d'ailleurs.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et Sébastien Léas, bonsoir. Attention aux fortes pluies, il y a toujours 8 départements en vigilance orange.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Cette vigilance qui concernait déjà l'Hérault, le Gard, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère a été étendue jusqu'à l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Les prochaines heures s'annoncent donc critiques, hein, avec des averses parfois stationnaires qui pourront donner des cumuls importants. Cette vigilance devrait être levée en cours de nuit, mais cela ne signifie pas pour autant la fin des averses, puisqu'une autre pulsation orageuse va se déclencher durant la soirée en Midi-Pyrénées, pour ensuite se décaler vers le sud-est et se retrouver à l'est du Rhône et sur la Franche-Comté demain. Des averses vont aussi se développer en journée entre le sud-ouest et le grand est, en passant par le massif central, mais elles seront moins actives et moins fréquentes qu'aujourd'hui.
Pulsation orageuse, dites-moi. Tendance à l'accalmie aussi par le nord-ouest.
Oui, cet après-midi était déjà clément sur la Bretagne et le littoral normand, avec même un soleil généreux du côté de Paimpol ou encore du Havre par exemple. Et demain, ce temps plus calme va s'étendre des côtes de la Manche au plateau lorrain, au bassin parisien, à la Touraine, au Charente et à la Gironde. Alors les éclaircies seront un peu timides le matin, mais le ciel va devenir de plus en plus dégagé l'après-midi. Les éclaircies seront aussi de retour autour du golfe du Lion sous l'impulsion d'une petite tramontane. Et puis l'ambiance va quand même se rafraîchir demain avec des maximales qui seront en légère baisse. L'après-midi prévoyait 19 à 25 degrés sur la majeure partie du pays et 24 à 31 degrés sur les régions de la Méditerranée.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure après 19h.